Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, aujourd'hui le sommaire de Cinérama est partagé entre les films qui sont sortis en février et puis des films eh bien, qui sortent le 1er mars. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Pour
bonjour.
Toi, Marine, ce sera donc un film très attendu.
Oui, Trainspotting 2, enfin T2 Trainspotting, plutôt comme le titre original le veut, de Danny Boyle. Et je parlerai également d'un autre film quand même assez attendu en cette période pré-présidentielle, Chez nous, de Luca Bellevaux.
Et toi Manu, c'est un film de février mais qui était assez attendu aussi.
Split, le nouveau film de Shyamalan.
Et puis pendant qu'on y est, parmi les films attendus, c'est le film Logan de James Mangold, film qui raconte eh bien, l'histoire de Wolverine. Et puis j'ai vu aussi Les Derniers Parisiens, film du groupe La Rumeur. Et puis alors aujourd'hui, c'est un peu spécial puisque les Césars se sont déroulés fin février. Nous écouterons un petit montage de 5 minutes pour nous rappeler au bon souvenir de cette cérémonie, c'est Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on commence avec Trainspotting 2. On avait laissé notre bande d'héroïnomanes écossais en pleine séparation puisqu'à la fin de Trainspotting 1, Ewan McGregor alias Mark Renton se barrait avec un gros paquet de fric qu'il avait volé à ses amis, les laissant dans la cam et dans leur banlieue de Édimbourg. 20 ans plus tard, Mark s'est refait une santé, il a tenté d'avoir une vie normale, stable, conforme aux standards, mais à 46 ans, tout s'effrite peu à peu, sa santé, son mariage, son travail. Il revient donc à Édimbourg pour y retrouver son ancienne bande de potes, bien décidé à se faire pardonner ses erreurs passées et bien décidé à se retrouver peut-être un peu lui-même.
Choisis la vie. Choisis Facebook, Twitter, Instagram, en espérant que quelqu'un, quelque part, en ait quelque chose à foutre.
Tu m'as manqué, Mark.
Toi aussi, Spud.
Choisis d'aller voir tes ex, en regrettant de pas t'y être pris autrement.
Tu es encore sous héroïne ?
Non. Et choisis de regarder l'histoire se répéter.
Salut, Franco.
Simon, je suis rentré à la maison. Choisis la télé-réalité, la persécution sexiste, le revenge porn. Choisis un boulot de merde, 2 heures de transport pour y aller, et pareil pour tes gosses mais en pire. Et étouffe la douleur avec une dose indéterminée d'une drogue indéterminée qu'un mec a fabriquée dans sa cuisine et respire à bon coup.
Bon voilà, alors surtout comme vous l'avez compris, allez le voir en France, en anglais pardon, surtout pas en français. Alors est-ce que ce Trainspotting 2, 20 ans après, est au niveau du premier qui avait quand même été un film culte pour toute une génération ? En un mot, non. Mais on n'assiste pas pour autant au naufrage artistique que l'on aurait été en droit de craindre. Il faut savoir aussi que Danny Boyle, toujours aux commandes du film, ne partait pas de rien puisque le livre Trainspotting de Irvin Welsh avait déjà une suite. Cela n'empêche pas le film de manquer cruellement d'enjeux, car une fois que l'on a retrouvé les divers personnages et constaté leur évolution respective, eh bien le film commence à patiner. L'unique enjeu du film arrive donc sous les traits de Begbie, le psychopathe déjà présent dans le 1, qui revient pour se venger. Bon, c'est un peu mince. Il y avait dans le 1 énormément de nihilisme. Malgré sa mise en scène profondément tape à l'œil, tout cela était au service d'une vision de l'humanité désenchantée dans une Angleterre post-Thatcher. Ici, nulle vision politique, juste une bande de quadragénaires profondément nostalgiques. Et on a d'ailleurs un peu du mal à comprendre pourquoi ils regrettent leur jeunesse de drogués qui a quand même tourné autour des overdoses, du sida et des ruptures familiales. Et puis, simple détail, justement, le sujet principal du 1 était l'addiction à la drogue qui est cette fois totalement absente du 2. D'ailleurs, si vous ne vous souvenez pas du 1 ou si vous ne l'avez pas vu, ne vous inquiétez pas, tout est prévu, un flashback toutes les 5 minutes, ce qui offre parfois des moments assez gracieux, mais assez vite, on a également l'impression que toutes les scènes sont articulées autour de ces flashbacks, comme si ce nouveau volet finalement ne croyait pas assez en ses propres qualités. Alors, côté forme, ça demeure du Danny Boyle, malheureusement. Même si le réalisateur avait quelque peu assagi le mauvais goût de sa mise en scène, il reprend ici tous ses pires tics de réalisation. Et puis alors, dès qu'il a trouvé une petite idée, il nous l'a fait 10 fois de suite. C'est très énervant, même Xavier Dolan n'ose pas faire ça. Heureusement, le film, bien que très racoleur toujours dans son esthétique, n'est pas dépourvu d'une certaine mélancolie, de beauté, de sensibilité et surtout... La fougue et l'énergie qui animaient Trainspotting 1 a été préservée à l'image de la bande-son qui accompagne ce second volet. Voilà, Trainspotting 2, ça sort le 1er mars sur tous les écrans.
Et c'est ça. Et on va passer à un autre film qui fera sûrement moins de spectateurs, Les Derniers Parisiens.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, ça, une blague ou quoi ?
Grand Corps Malade, le slammer sort le 1er mars son film Patient, adapté de son roman autobiographique homonyme. Selon tous ceux qui ont pu le voir, eh bien, c'est une réussite. Abdelmalik avait fait la même chose en 2014 en adaptant son roman homonyme, Qu'Allah bénisse la France. En 2015, Orelsan et Gringe, les casseurs-flotteurs, nous ont fait Comment c'est loin. Là encore, eh bien, c'est vaguement autobiographique. Les rappeurs peuvent donc se placer derrière la caméra avec une certaine réussite, mais il s'agit surtout pour eux de parler de ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas d'exception avec Les Derniers Parisiens, film de Amé et Ekwe, deux membres du groupe de rap La Rumeur. Ils ont ancré leur premier film, ils avaient déjà fait un court-métrage, dans le quartier de Pigalle, un quartier de Paris qu'ils connaissent bien. Et autant le dire, eh bien, on ressent très vite une familiarité avec les rues, les lieux, les habitants et les commerces. Tout cela filmé caméra épaule, entre urgence et spontanéité. Le film gravite autour du Prestige, c'est un bar tenu par Areski, le grand frère de Nas, interprété par Reda Kateb. Nas, la trentaine, vient de sortir de prison, il est en probation et doit se tenir à carreau encore quelques temps avant d'être parfaitement libre. Mais c'est comme un goût de liberté. Après tout, il a été pris en contrat aidé par son grand frère Areski. Il sert d'éroteuse en en buvant quelques-unes au passage, comme il dit. Alors ça ne le passionne pas. Nas rêve d'autre chose, habitué à la rue, aux fêtes, aux déambulations nocturnes, à la débrouille. Il ne peut se suffire de ce que lui donne son grand frère. Areski, derrière son comptoir de bar, aime les choses réglo et n'a qu'une envie, partir dans le sud, monter un gîte. Voilà le tableau. Les deux frères donc s'opposent. L'un semble appartenir à cette immigration à qui on a toujours demandé de s'intégrer, quitte à rentrer dans le rang où rien ne dépasse. Et l'autre, Nas, plus jeune, ne s'embarrasse pas de cette gêne. Nas veut se faire un nom à Pigalle, dans le monde de la nuit, et veut voler de ses propres ailes.
Ah, est-ce que je vais avoir besoin du bar pour une soirée ?
Il va rien se passer. Ni soirée, ni rap, ni foot. Oublie.
Je travaille toujours chez lui ?
C'est pas chez lui, c'est chez nous. Je suis associé avec lui.
Je vais m'occuper de la première soirée, c'est moi qui mets tous les financements. On fait 50-50 s'il y a du gras. Ça te va ?
Les nuits, les clubs, t'as pas envie d'autre chose ?
Mettre mon nom à Pigalle, je sais faire que ça.
Les deux réalisateurs orchestrent un film qui nous plonge dans une ambiance au plus près des personnages, au cœur d'un quartier. Les deux hommes avouent qu'ils ont pu saisir donc des images en toute tranquillité, puisque là-bas, eh bien, ils sont connus. Alors, passer la première scène teintée de documentaire où l'on est plongé dans un bar de quartier devant un match de foot avec des types misogynes, passer cette première scène, on entre dans une fiction avec deux frères, mais aussi des personnages périphériques qui ont tous à dire sur le quartier, sur Paris, sur la France, la gentrification et l'économie mondialisée. Le film fonctionne beaucoup avec des oppositions. Alors déjà, image documentaire, récit de fiction. Le frère qui mange des kebabs quand l'autre goûte du bon vin. L'un regarde les femmes dans les clubs quand l'autre est amoureux d'une femme engagée on a envie de dire bien française. L'un veut devenir grand quand l'autre veut juste rester en vie. Alors ça, c'est le contour des deux frères, le cœur de la fiction. Mais on trouve aussi d'autres oppositions plus formelles que souligne la mise en scène. Petit commerce contre les magasins franchisés, économie souterraine contre plan réglo, une certaine forme d'honneur contre le business à tout prix. Les comédiens, la plupart amateurs, qui sont des amis des réalisateurs, sont convaincants. Reda Kateb, Slimane Dazi, les deux frères sont impeccables et Mélanie Laurent fait quelques interventions qui fonctionnent. Pour nous immerger davantage dans le récit, le duo de réalisateurs a voulu placer alors une bande-son omniprésente qui n'est pas désagréable mais systématique. On est davantage dans la coloration des scènes que dans l'emphase. Le thème principal est d'ailleurs assez léger. Voilà, on peut s'imaginer marcher à 1h30 du matin, 2h, boulevard Clichy. Avec Les Derniers Parisiens, qui devaient s'appeler Mon Nom à Pigalle, on est face à un film d'atmosphère avec de la gouaille où l'embrouille n'est jamais loin. L'une des plus belles qualités de ce film modeste est justement sa modestie. Les réalisateurs cherchent avant tout à témoigner sans triche. Les mecs alors sont misogynes, on le montre. Il y a de l'esbrouve, de l'intimidation, des trahisons, mais aussi de solides amitiés, eh bien on le montre. Les portraits des deux frères et du quartier Pigalle débouchent aussi sur la question de la transformation des quartiers populaires. Et cette question-là, eh bien finalement, n'est pas seulement parisienne. Voilà, Les Derniers Parisiens, donc film de Amé et Ekwe.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
La suite des opérations, eh bien, c'est la cérémonie des Césars, la 42e cérémonie des Césars qu'on a pu vivre, eh bien, c'était le vendredi 24 février. Et on va en faire un petit résumé de 5 minutes. Qui l'a regardé ? Manu, tu ne l'as pas regardé ?
Non, je crois que je n'ai pas vu les Césars depuis 25 ans.
Et voilà, mais Marine les regarde
moi,
chaque
si,
année.
Si, et je pleure devant chaque César, même celui des meilleurs décors. Je pleure devant tous les Césars.
Allez, souvenir.
Bonjour, monsieur.
Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à la salle Pleyel pour cette 42e cérémonie des Césars.
J'attendais ce moment avec impatience.
Golden Globe de la meilleure actrice le mois dernier, nommée ce soir dans la même catégorie et qui s'envole demain vers les Oscars. Vous raflez tout, chère Isabelle, à tel point que la presse parle d'une upérisation du cinéma.
Oui, c'est drôle, n'est-ce pas?
Le César du meilleur premier film est attribué à Divine.
On va faire couche, là.
Je crois que j'avais préparé un truc.
On veut bosser pour toi.
Tu te crois pas l'emploi, quoi?
Et donc, le César du meilleur espoir féminin est attribué à Oulaya Amanda.
Money, money, money. Money, money, money.
Papa, si tu me regardes là-haut, je t'aime et j'espère que t'es fier de moi.
Allez-y.
Le César du meilleur espoir masculin est attribué à Neil Schneider.
Ne fais jamais plus quelque chose derrière mon dos, sinon te dégage. T'es pas chez toi ici.
Quand j'avais 16 ans, j'étais vraiment perdu et j'étais convaincu précocement de l'inaccessibilité de cette profession.
Eh ben voilà qui pourra peut-être m'aider. Voudriez-vous parler de ça?
Merci donc à tous ceux qui m'ont prouvé le contraire, qui ont combattu mon scepticisme.
Oui, ça n'avait rien de drôle, cette expérience, n'est-ce pas?
Le César du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à... James Thierry.
Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro.
Tu cherches un nègre?
Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire.
C'est intéressant ce qui s'est passé entre nous et merci pour ces moments passés avec toi, Omar.
Il y a certaines choses que je dois voir de mes propres yeux.
Pour la meilleure actrice dans un second rôle, qui?
Le César est attribué à Déborah.
Les mères, c'est comme les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Et toi, t'as souvent l'air d'avoir peur.
Non, j'ai pas peur.
Tu vois que t'as peur?
Bah, t'es flippante aussi, hein.
J'ai souvent remarqué que les plus grandes nouvelles ou les événements qui étaient liés au cinéma, je les ai reçus quand j'étais tranquillement installée dans mon petit train-train quotidien.
Je dois dire que cela me dépasse.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à...
Xavier Dolan, pour Juste la fin du monde.
Si tu veux te retrouver dans cette piole de chiasse, pour voir comment le ton a malmené, modifié... T'as pas un plan plus à la mort moelle d'eux pour les faire en famille, comme ça, tous ensemble, là?
Antoine.
Non, mais je dis pas ça pour t'insulter, oui, mais...
Non, de toute évidence.
Mes amis doubleurs ont formé mon imagination et structuré ma langue et mon caractère. Je n'ai jamais eu, avant ce soir, l'occasion de leur exprimer ma gratitude et de leur dire qu'une des choses les plus précieuses à mes yeux, c'est la loyauté et l'amitié qu'ils m'ont partagée depuis que je suis tout petit. Alors, merci.
Excellent. Comme toujours.
Et le César du meilleur film étranger est attribué à...
Moi, Daniel Blake.
Vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, quelque chose de très important.
Et le César du meilleur film documentaire est attribué à... Merci Patron, réalisé par François Ruffin.
Vous avez quand même supprimé combien? 8000 emplois?
Je pense que vous êtes communiste.
Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on en a rien à foutre.
C'est normal. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement.
Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase.
Le César du meilleur acteur est attribué à Gaspard Ulliel pour Juste la fin du monde.
12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer, non. La famille, quoi. Il arrive qu'on laisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang. Et dont on s'éloigne, volontairement.
Il m'a demandé de lire ce texte, mais étrangement aussi de le découvrir en même temps que vous, donc...
Attendez, je ne voudrais pas perdre le fil de ce qui a été dit.
Le César de la meilleure actrice est attribué à Isabelle Huppert.
J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair.
La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi.
Vous avez reçu quantité de distinctions internationales et vous avez un grand renom.
Pour elle, eh bien, le rôle l'emporte sur l'interprète. Voilà. Parce qu'au fond, je jouais pas plus mal, enfin, aussi bien peut-être dans d'autres films. Mais cette année, eh bien, il semble que vous l'avez mieux remarqué dans elle.
Le César du meilleur film est attribué à elle.
Isabelle Huppert, tu as ajouté un niveau... supérieure à ce film.
Tout cela coïncide parfaitement avec les autres témoignages.
Alors voilà, il y avait forcément d'autres prix, hein, l'image, le son, tout ça. C'était compliqué de tout mettre sur ce montage. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement, Marine ? Est-ce que tu étais d'accord d'ailleurs avec...
Également, César du meilleur t-shirt pour François Ruffin, quand même. qui avait Bolloré sur son t-shirt avec marqué « J'aime Vincent ».
Ouais.
Très mignon t-shirt.
Mais c'est une intervention assez rare. Alors d'ailleurs, ça va nous permettre d'écouter une autre intervention assez rare. C'est celle de François Cluzet qui est venu remettre bien le César de la meilleure adaptation.
Tout est une histoire d'adaptation. Par exemple, si on peut dire « Bamboula, c'est convenable », on doit pouvoir dire « Enculé de raciste, c'est un beau compliment ».
C'est quand même assez couillu, on va dire, d'arriver et voilà, de dire ça. Alors, ce qui est assez étonnant dans cette cérémonie des Césars, c'est forcément ceux qui ont été nommés plein de fois, comme elle et Franz, qui ont été nommés 11 fois, sauf que Franz a remporté un seul César. Donc, on a l'impression que la liste, finalement, des nominés est assez mal faite. Enfin, parce que comment on peut être nommé 11 fois et n'avoir qu'un seul César ? Ça veut dire qu'on a pris la place aux autres. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est pas le seul. Hein. Malout n'a rien obtenu avec 9 nominations. Et Mal de Pierre, film de Nicole Garcia, 8 nominations, n'a absolument rien obtenu, ni image, ni son, ni rien. Voilà. Et après, moi, j'ai été complètement d'accord avec le César d'Isabelle Huppert. Par contre, meilleur réalisateur pour Dolan pour ce film-là, j'ai trouvé ça un peu osé, enfin, pour un film qui...
Pour moi, c'est son moins bon, donc en effet, j'aurais pas donné, mais bon.
Ma réalisation, j'aurais mis Elle ou Malout, par exemple.
Par exemple. Mais c'est vrai que quelqu'un qui multiplie les gros plans et qui... Alors, on peut vraiment parler d'un tic de montage et de mise en scène. Enfin, là, ça n'apporte pas grand-chose.
Comme on ne demande pas notre avis, en plus.
Voilà. C'est ça. Donc, ça ne changera rien. Et par contre, Gaspard Ulliel, c'est pareil. Enfin, Ulliel. J'ai l'impression que c'était pas lui qui le méritait forcément. Et ce qui m'a fait penser que Casey Affleck l'a reçu pour Manchester by the Sea pour un rôle pareil qui est très intérieur, mais il y avait plus de diversité finalement dans l'interprétation de Casey Affleck qu'il n'y en a eu pour Gaspard Ulliel dans le Dolan.
Après, c'est peut-être une façon de rééquilibrer aussi, parce qu'il avait été en concurrence contre Pierre Niney aussi pour les deux Yves Saint Laurent la même année. Donc, je sais pas, c'est peut-être une façon de rééquilibrer un peu la donne. Pierre Niney n'a rien eu cette année, c'était lui.
Un petit arrangement. Bon.
Oui, puis beaucoup de films ne sont pas nominés du tout. Hein, des films comme La Loi de la Jungle.
Ah oui, non, oui. C'est complètement biaisé.
C'est quand même lié
au box-office. C'est-à-dire que c'est quand même dans le film cinéma d'auteur, c'est les films qui ont le mieux marché, qui chaque année sont nominés au César. Et un grand film français qui n'aurait pas fait de spectateurs, il va être absent forcément.
Oui. Ah non, mais c'est très étonnant. Hein. C'est Le Voyage en Sibérie, je crois. C'est Ibrahim Malouf qui a remporté la musique, mais ce film n'a été nommé
totalement
que pour la musique.
Mérité, oui, alors que pourtant la photographie était superbe, le scénario était bon et l'interprétation aussi.
Voilà. C'est là où on peut finalement relativiser donc cette cérémonie des Césars. Et comme on n'a pas le temps d'en parler plus, eh bien on va maintenant revenir à nos chroniques.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Après le revigorant The Visit, un found footage ludique, Night Shyamalan continue sur la lancée avec The Split, production Jason Blum, en tournant le dos. Mais a-t-il vraiment encore le choix au gros budget avec un petit film d'horreur ? Enfin, horreur si on veut, hein, modeste mais excitant sur le papier. Alors Split raconte l'histoire, vraie paraît-il, mais on s'en moque complètement, hein, de Kevin, schizophrène, qui cumule 23 personnalités différentes. Alors si distinctes qu'il peut aussi bien se retrouver dans la peau d'un gosse que dans celle d'un kidnappeur froid et méthodique. D'ailleurs, il ne va pas s'en priver puisqu'il séquestre 3 adolescentes, dont la jeune Casey qui va tenter de comprendre la psyché complexe de son ravisseur. Alors ce dernier annonce également qu'une 24e personnalité, plus dangereuse que jamais, est en train de naître. En parallèle, la psychiatre, le docteur Fletcher, s'inquiète de l'évolution des pathologies de son patient.
Je vais faire une supposition de clinicienne, basée sur la description précise et exhaustive des 23 identités que le corps de Kevin abrite. Ça, je l'ai appris par Barry. Je dirais que je m'adresse à Dennis. Je me réjouis que nous puissions enfin faire connaissance. Je l'ai deviné parce que vous avez rectifié 2 fois la position de la coupelle de chocolat depuis que vous êtes ici. Je constate que vous avez des tocs.
Je vois, d'accord, je vois. C'est intelligent, mais je ne suis pas Dennis.
Cela fait pas mal de temps maintenant que Patricia et vous avez été bannis de la lumière. La principale raison de ce bannissement a été vos croyances.
Patricia et Dennis sont des personnes instables. Je ne suis pas Dennis.
Maintenant, vous avez le contrôle, tous les deux.
Croyez-moi, s'il vous plaît, je suis Barry.
Alors, un sujet pareil avait de quoi susciter une attente assez intense, d'autant qu'en petit mètre du twist cohérent, hein, redéfinissant même le sens même du récit, Shyamalan pouvait revenir à la hauteur de ses films les plus célèbres, hein, Sixième Sens et Incassable. La séquence d'ouverture jusqu'à l'enlèvement est par ailleurs un modèle de mise en scène en matière de découpage, notamment par cette manière d'instaurer une fausse douceur, de prendre son temps par de lents mouvements de caméra, un montage assez précis et une utilisation pertinente des gros plans sur le visage effrayé de l'émouvante Kazeh, adolescente isolée du monde. Alors, Shyamalan réaffirme la puissance de son art en 10 minutes. Dommage qu'il ne parvienne pas à maintenir le cap tout au long des 2 heures d'un film inégal, passionnant sur le plan thématique mais bourré de défauts. Alors le scénario, hein, trop mécanique et répétitif, entrave le talent du cinéaste, redoublant d'efforts visuels pour maintenir l'intérêt. Alors d'autant que l'interprétation en sur-régime, alors prouesse évidente, très acteur studio de James McAvoy, hein, ne convainc pas toujours, notamment lorsqu'il incarne un gamin de 8 ans. L'outrance des mimiques et la gestuelle forcée agacent davantage qu'elle ne fascine. Les différentes personnalités manquent de nuances, hein, pour éviter sans doute de perdre le spectateur en route. Alors l'intrigue est trop prévisible, le jeu du chat et de la souris n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. Dommage, car les thèmes abordés sont passionnants à plus d'un titre. Alors sans spoiler, hein, non pas le twist, hein, car il n'y en a pas vraiment. En dépit de ce que j'ai lu à droite et à gauche, Split nous embarque vers une révélation évidente, monstrueuse au sens littéral, conférant au film une efficacité immédiate, une brutalité salvatrice à défaut de subtilité. La force du film était en fait de dresser un portrait en miroir de 2 laissés pour compte, 2 marginaux, victimes de blessures du passé, d'un trauma ayant sur chacun des conséquences différentes. Alors intériorisé pour la jeune héroïne, hein, qui porte les stigmates de son enfance sur le plan physique, et extériorisé par les multiples dédoublements de personnalité du psychopathe. Alors sur le plan psychanalytique, hein, il y a quelque chose d'assez vertigineux dans ce double portrait qui pourrait ne contenir qu'une seule personne. Shyamalan renverse habilement la notion de victime et de bourreau, nuance son propos au point de rendre attachant les 2 personnages. Une audace à saluer des 2 mains, hein, au cœur d'un cinéma hollywoodien de plus en plus manichéen et simpliste qui aime bien pointer du doigt les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Alors l'empathie de l'auteur d'Incassable n'est plus à prouver, hein. Il aime les monstres, les marginaux, hein, produit d'une Amérique castratrice et dégénérée, comme en témoignait à mon avis le génial Le Village, qui était pour moi son plus beau film et aussi son plus politique. Alors, faute d'un scénario bancal, hein, Split n'atteint pas les cimes attendues, il s'avère un peu frustrant. Reste une excellente série B, claustrophobe, sous-tendue par un humanisme inattendu et dotée de quelques séquences vraiment flippantes. Et révélée par The Witch, l'actrice, la jeune Anna Taylor, avec ses grands yeux noirs, est vraiment passionnante. Vraiment une actrice, une grande découverte.
Merci Manu. Et on va passer du film américain, comme tout à l'heure, eh bien, au film français.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Un autre film d'horreur, on peut dire, un petit peu dans un autre registre. Chez nous, de Lucas Bellevaux. Alors l'histoire se déroule à Hénard, dans le Nord, petite ville oubliée des politiques, au passé minier, à la misère sociale palpable, à l'avenir sombre. Toute ressemblance avec une ville s'appelant Hénin-Beaumont serait bien sûr tout à fait fortuite. Pauline est une infirmière libérale très proche de ses patients qui a toujours vécu à Hénard, aimée de tous. Bref, la parfaite personne à instrumentaliser pour le Bloc, parti politique d'extrême droite, là encore toute ressemblance avec le FN serait fortuite, qui tente de gagner cette mairie et qui a pour cela besoin de faire oublier sa vieille image fasciste, violente, voire néo-nazie. Quoi de mieux donc que d'utiliser une figure locale populaire afin de dédiaboliser le parti.
Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents, des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime.
Salut.
Vous pourrez venir dîner un soir ?
Je voudrais te parler.
Ah, je lui racontais qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert.
Qui ça, il ?
J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo Lagrange.
Je te signale qu'ils sont autant français que toi.
Ah bah ça, c'est à voir, ma grande. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps.
On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi.
Et ça serait sur une liste du Bloc patriotique.
C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste ?
Elle, c'est pas la même chose. Et puis c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil.
Tu veux changer quoi avec ces gens-là ?
C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer.
Niquer qui ?
On est presque au pouvoir. Ça fait 40 ans que je me bats pour ça.
Alors, on n'a jamais eu trop de doutes hein, quant à l'engagement politique de Lucas Bellevaux dans son film Caval, premier volet d'une trilogie ambitieuse et réussie. Il interprétait lui-même le rôle d'un militant de gauche que son engagement avait mené en prison. Il consacre cette fois son nouveau film à démonter les rouages du Front National, expliquant bien les différentes stratégies menées par Catherine Jacob, moyennement convaincante hein, en alter ego de Marine Le Pen. Chez nous est un film important dans une période d'élection présidentielle, bien interprété, bien dialogué, efficace, mais... le cinéma de Lucas Bellevaux, très didactique, perd ici en subtilité. À trop vouloir faire passer un message fort et important, certes, il ne renonce à aucune ficelle visible, en particulier une fin lourde à souhait, ce qui nuit parfois à la qualité du récit. Le film aurait sûrement gagné en crédibilité s'il avait laissé l'action prendre son temps. Une fois n'est pas coutume, hein, une bonne demi-heure de plus n'aurait pas fait de mal. Le personnage de Émilie Dequesne, qui devient la marionnette des nationalistes, laisse un peu dubitatif, un peu compliqué de croire à une évolution aussi radicale de sa part en 45 minutes. Elle passe quand même de jeune fille complètement étrangère à la politique à futur élu FN. Tout comme on a un peu de mal à penser que l'extrême droite irait chercher une infirmière de gauche dont le père était militant communiste, il y a quand même plus facile à convaincre peut-être. Hein. Alors si le travail de vulgarisation est efficace et l'entreprise fort louable, on est également en droit de se demander à qui s'adresse le film. Car qui ira voir le film ? Déjà, bah, des gens sans doute déjà intéressés par le cinéma assez social et assez militant de Lucas Bellevaux. Donc des gens potentiellement déjà au courant de tout ce que le film démontre. Donc voilà, est-ce que ça ne revient pas à prêcher des convertis ?
Oui, mais c'est le cas de tous les films sociaux,
voire politiques. Enfin, voilà, le cinéma social ne sert à rien.
Bon, après, il y a un moment où ça passe aussi à la télévision.
Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Je pense qu'en fait, ce film aurait été meilleur en tant que téléfilm. Voilà, passer à une heure de grand audimat sur la 1. Non, là, je vais peut-être voir un petit peu trop loin, mais je pense que ça aurait été en même là que le film aurait été le plus efficace, je pense.
Ou dans les écoles.
Ou dans les collèges, ouais.
Allez, on vient au film américain.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Et lui, c'est qui ?
Lui, c'est le gars qui dit de remonter dans ton 4x4 et de jouer au gangster bouseux ailleurs.
Avec Logan qui sort le 1er mars sur les écrans, c'est la 9e et dernière fois que Hugh Jackman prête ses traits à Wolverine dans ce qui est donc un ultime épisode de l'histoire du mutant aux griffes d'adamantium. C'est le 3e film centré sur le super-héros après X-Men Origins, Wolverine et Wolverine, le combat de l'immortel qui était sorti en 2013. Ce personnage fait partie hein, des chouchous des X-Men. C'est lui d'ailleurs que les mutants renvoient dans le passé pour X-Men Days of Future Past pour remédier au problème. Mais si habituellement les X-Men sont des habitués de la castagne et font figure de super-héros avec un Logan, l'autre nom de Wolverine, vieillissant et amoindri, dès le début du film, on sait d'emblée qu'on n'aura pas affaire à un classique du film de super-héros où violence et action sont accompagnées par des effets spéciaux redoutables. Tout le contraire avec ce Logan signé James Mangold qui se libère du genre en nous proposant un road trip mêlant trois générations, une très jeune mutante qui a les mêmes pouvoirs que Wolverine, un professeur Xavier octogénaire et donc Logan alias Wolverine qui n'arrive plus à se régénérer. Je savais que j'aurais un problème à se régénérer comme au bon vieux temps. Logan s'occupe du professeur Xavier comme le ferait une nurse fatiguée, n'est pas tout à fait sûre de vouloir devenir la nounou ou le père adoptif de la petite Laura qui en plus ne dit aucun mot et a des accès de violence. Avec Logan, Mangold se rapproche davantage du western que de la science-fiction. On s'en aperçoit avec les paysages traversés. Il privilégie les déserts de El Paso jusqu'au Dakota du Sud. Le réalisateur qui multiplie les mises en abîme. Les coordonnées suivies par Logan sont données par un comics book qui raconte l'histoire en fait des X-Men. Voilà, donc Wolverine regarde sa propre histoire. Alors donc le réalisateur place aussi ses personnages, notamment Xavier, comme un témoin privilégié d'une époque révolue. On le voit apprécier un western avec une scène en boucle où un cow-boy rend la justice à coups de pistolet. On est ici du côté du western, alors crépusculaire, sur fond de transmission familiale. Et l'intrigue mêle subtilement dans une même séquence un rejeton sensible sous les traits de la petite Laura, opposé à un clone brutal de Wolverine. Deux faces de Wolverine, le solitaire, qu'on a vu plus féroce que dans cet épisode-ci. Alors, ceux qui aiment l'univers des X-Men y trouveront des clins d'œil à l'univers, justement, des super-héros, mais resteront peut-être sur leur faim en termes d'action. Quant à ceux qui n'ont aucun entrain pour les films de super-héros, ils peuvent pousser la porte du cinéma. Ils verront autant un western moderne qu'un road movie sensible, questionnant la famille et quelques belles chorégraphies en guise de baston. Et ce qui est assez amusant, c'est que le professeur Xavier, alors très très vieux, quand je dis octogénaire, il est presque nonagénaire. Et en guise d'incontinence, en fait, il a juste des problèmes, c'est qu'il ne contrôle plus sa pensée. Enfin, donc, il a son pouvoir de pensée qui permet de dérégler tout un tas de choses. Enfin, voilà. Et ça, c'est Logan qui est obligé de veiller là-dessus, enfin, comme on pourrait, une nurse pourrait veiller donc, sur l'incontinence d'une personne âgée. Et après, il y a quelques scènes amusantes où Logan cherche à être le tuteur de la jeune fille qui a les mêmes pouvoirs que lui. Voilà, s'il y a quelques petites choses intéressantes. En tout cas, c'est un film qui est interdit aux moins de 12 ans, ce qui est assez étrange parce que c'est peut-être celui où il y a le moins d'action. Mais comme la petite fille, on arrive à tuer d'autres personnes, eh bien, il a été interdit aux moins de 12 ans en France. Voilà, Logan de James Mangold est sorti le 1er mars.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Ainsi s'achève l'émission Cinérama. La semaine prochaine, vous avez déjà des films en vue.
Oui, je vais aller voir 20 Century Woman.
Et toi, Marie?
Et pour rester dans le cadre du combat pour la lutte des femmes, moi je vais vous parler des Figures de l'ombre.
Et nous préparons un petit blind test.